RFI Matin.
RFI Matin jusqu'à 10h, heure de Paris. À la une, le Proche-Orient dans l'attente d'un cessez-le-feu. Une trêve de 40 jours est proposée. L'offre comprend aussi la libération de milliers de prisonniers palestiniens en échange de la libération des otages israéliens du 7 octobre. Le Hamas prépare sa réponse après les discussions au Caire. Que pensent les Palestiniens de Cisjordanie de ce projet? Nicolas Falaise est allé à leur rencontre et il nous dira à 8h ce qu'il en ressort. À la une également, la Géorgie, le parti au pouvoir, a organisé hier un rassemblement pour soutenir son projet de loi contre l'influence étrangère, qualifié de loi russe par ses détracteurs, une loi liberticide, dit l'opposition. Et tout de suite les sports, Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Arnaud.
À la une, le football, c'est parti pour le dernier carré européen. Bayern-Real, c'est l'affiche de la première demi-finale allée de la Ligue des Champions.
Un Real qui, sauf énorme surprise, fêtera bientôt son titre de champion d'Espagne et rêve d'un doublé prestigieux face à un Bayern dominé par Leverkusen dans son championnat et qui veut sauver sa saison grâce à la Coupe d'Europe. Bayern-Real, coup d'envoi 19h, temps universel.
Et côté trophée, le compte à rebours continue pour le prix Marc-Vivien Fauré qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1.
Le 2 mai, les trois finalistes du trophée décerné par RFI et France 24 seront connus. Comme chaque jour, nous vous présentons un des 11 nommés. Focus aujourd'hui sur un des Benjamins de la bande, l'attaquant ivoirien de Reims, Oumar Diakité, héros national depuis son but vainqueur contre le Mali en quart de finale de la dernière CAN. Une compétition dont il est revenu différent qu'Ilian Tanguy.
Quelques entraînements, quelques matchs. Dès son arrivée à Reims en juin, son entraîneur Will Steele lui fait confiance. Mais c'est surtout depuis que l'avant-centre de 20 ans a remporté la CAN avec les éléphants que Oumar Diakité s'est démarqué. Il explique.
On se bat d'une CAN sans apprendre et on n'est pas vainqueur d'une CAN sans avoir appris plein de choses. En termes de maturité, on va dire, ça me donne beaucoup plus d'expérience et aussi beaucoup plus de caractère, de mental, tout ça. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, je me dis, il n'y a rien à perdre, quoi. J'ai tout à gagner, oui. À moi d'aller chercher ce qu'il faut.
Sur les 5 matchs de Ligue 1 qui ont suivi le sacre, Oumar Diakité, c'est 4 titularisations, 3 buts et 1 passe décisive, dont 1 but et 1 passe décisive lors du nul 2 partout face au PSG au Parc des Princes. C'est ce que l'on appelle surfer sur la victoire.
Oumar Diakité qui retrouvera les terrains le 10 mai face à Brest.
En cyclisme, le départ de la 19e édition du Tour cycliste international du Bénin sera donné ce mardi matin.
Très précisément à Natitingou, à près de 600 km de Cotonou, la capitale économique. Un tour qui s'élance du nord-ouest, juste à la frontière avec le Togo, pour une première étape longue de 126 km reliant Bukumbé à Djougou. A priori, la plus difficile des 5 étapes de la course, Théophile Azam.
Succession de côtes, route accidentée. Une épreuve pour les coureurs de la 19e édition du Tour international du Bénin. La jeune équipe du Cameroun compte bien relever le défi avec à sa tête l'expérimenté Clovis Kabzong Abosolo.
C'est une étape que je connais. Je sais qu'il y a une bosse qui sera très difficile. Je pense que c'est là où tout va se jouer. Parce que déjà, dès que tu traverses cette bosse-là, tu pourras aller jouer un sprint à l'arrivée.
5 fois vainqueur du Tour cycliste international du Bénin, le Burkina Faso va courir cette année sans Paul Domon, actuellement en stage en France. Une absence qui est loin d'être un handicap, selon le jeune coureur burkinabé Soulama Daouda.
Paul est avec nous. C'est vrai, il n'est pas présent, mais il est avec nous ici. Il ne va pas nous manquer. Il nous donne toujours ses expériences. Je pense que vous allez voir un nouveau Paul Domon né.
Et pour sa première participation au Tour cycliste international du Bénin, le Mali doit rivaliser d'ardeur aux côtés des 5 des 10 meilleures nations au classement africain que sont le Maroc, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, présents au Tour cycliste international du Bénin édition 2024. Djibril Akone, l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali, fait confiance à ses coureurs.
Je sais très bien que les jeunes vont faire quelque chose quand même, parce que les consignes, qu'est-ce que je leur dis, s'ils appliquent ça, ils vont faire quelque chose.
Théophile Aza, Natitingou, RFI.
Et on termine avec un mot de tennis, Antoine.
Et 11 Jabeur qui dispute ce mardi son quart de finale du Masters 1000 de Madrid. La Tunisienne opposée à l'Américaine Madison Keys, 20e joueuse mondiale.
Merci Antoine, vous revenez dans une demi-heure pour nous reparler de Bayern-Real.
RFI Matin.
Après la Mauritanie et la Gambie, c'est la Guinée-Bissau qui s'apprête à recevoir ce matin la visite du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Du temps de Macky Sall, on sait que les liens entre Dakar et Bissau étaient forts. Alors va-t-on vers un changement ou la continuité? Au-delà, le chef de l'État sénégalais envisage-t-il de rencontrer aussi les officiers putschistes qui dirigent les trois pays voisins du Sahel? Pour en parler, notre invité Afrique ce matin, Mamadou Lamine Sarr, il enseigne des sciences politiques à l'université Cheikh Hamidou Kane de Dakar et répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Mamadou Lamine Sarr, bonjour.
Bonjour.
Du temps de Macky Sall, les relations entre Dakar et Bissau étaient fortes. Témoins les quelques 120 soldats sénégalais qui sont déployés à Bissau dans le cadre de la force de stabilisation de la CDAO. Est-ce que tout cela pourrait changer avec le président Diomaye Faye?
Je pense que ce serait plutôt l'inverse. Ce serait une consolidation, à mon avis, de cette dynamique-là. Parce qu'il y a quand même des intérêts économiques et surtout de sécurité au niveau de la frontière. La Guinée-Bissau est confrontée à de grands problèmes au niveau du narcotrafic. Le Sénégal a des difficultés encore au niveau de sa frontière, des difficultés héritées notamment du conflit avec le MFDC, donc le conflit casamancé. Donc il y a des intérêts communs mutuels pour que ces deux pays-là, à mon avis, consolident leurs relations.
Avec le contingent sénégalais, le président Macky Sall a pu consolider son alliance avec le président Sissoko Embalo contre les rebelles casamancés du MFDC. Et vous pensez qu'avec le président Diomaye Faye, c'est la même politique qui va être poursuivie?
Je pense qu'il y aura une forme de continuité tout à fait sur le conflit casamancé.
Avant la Guinée-Bissau, le président Diomaye Faye s'est rendu en Mauritanie. Dans le domaine énergétique, Bassirou Diomaye Faye veut renégocier le contrat du Sénégal avec British Petroleum en vue de l'exploitation à venir du gaz et du pétrole offshore, mais c'est un gisement que le Sénégal partage avec la Mauritanie. Ne faut-il pas que les présidents sénégalais et mauritaniens se mettent d'accord avant toute renégociation?
Oui, je pense que c'est une condition, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le président Diomaye Faye, entre autres, s'est rendu en Mauritanie. Il est important de discuter de cela. Mais au-delà même de la possibilité et peut-être de la nécessité de s'accorder avec la Mauritanie sur cela, avec ses spécialistes, le président Diomaye Faye a très certainement réévalué l'accord qui a été signé et s'est rendu compte, peut-être à son avis, que les intérêts du Sénégal n'étaient pas assez défendus. Maintenant, est-ce que ce contrat-là, il y a une partie qui a été signée avec la Mauritanie? Très certainement. Est-ce qu'il y a une partie qui oblige seulement le Sénégal? Très certainement également. Et donc, c'est sur ces deux leviers-là que le Sénégal peut jouer à travers sa nouvelle diplomatie. Et ce qui est certain, c'est que les Sénégalais, l'opinion publique sénégalaise en général, accorde une grande importance à l'exploitation du gaz et du pétrole, que ce soit par le Sénégal lui-même et avec ses voisins.
Mais pour l'instant, la compagnie pétrolière British Petroleum n'a pas l'air très favorable à une renégociation de ce contrat. Quelles sont les chances de réussite du nouveau gouvernement sénégalais?
Oui, cette entreprise-là, cette grande entreprise de pétrole, a certainement des raisons pour ne pas renégocier le contrat. Mais si un État dit cela, c'est qu'il a également des raisons pour le faire. Et ce n'est pas une première dans l'histoire du monde. Beaucoup d'États, je pense notamment à des pays en Amérique latine, ont renégocié des contrats avec des grandes entreprises et on a su trouver un équilibre avec ça. D'autres ont été un peu plus loin en allant jusqu'à nationaliser carrément la production ou l'exploitation de certaines ressources. Donc tout ça, c'est des possibilités qui ont eu lieu. Mais ce qui est certain, c'est que le Sénégal, en tant qu'État souverain, est lié effectivement par des contrats qu'il a signés, mais il a également, comme tout État, la possibilité de revoir ces accords-là en coopération avec les autres signataires. Et il y aura plusieurs leviers sur lesquels le président du Sénégal pourra jouer.
À l'investiture du président Diomaye Faye, il y avait des représentants de plusieurs régimes putschistes d'Afrique de l'Ouest, et sur le réseau X, le numéro 1 burkinabé, le capitaine Traoré s'est dit prêt à œuvrer avec le Sénégal à la rénovation de la coopération sous-régionale. Est-ce que le nouveau président sénégalais pourrait convaincre les trois pays de l'Alliance des États du Sahel à ne pas rompre définitivement avec la CDAO?
Je pense qu'à l'heure actuelle où on parle, s'il y a quelqu'un qui peut essayer de jouer l'intermédiaire pour essayer de rapprocher nos frères du Burkina, du Mali et du Niger, c'est bien le président Diomaye Faye, parce qu'avec les autres puissances que sont la Côte d'Ivoire et le Nigeria, il semble que les discussions, les postures soient très extrêmes, très difficiles. Donc le Sénégal, avec l'alternance politique, a cette chance-là de pouvoir jouer un rôle là-dessus. D'autant plus qu'il y a des sujets sur lesquels, quand même, ce président-là est en accord avec ses jeunes au pouvoir. Je pense notamment à la question du franc CFA, sur lesquels les positions sont très claires et, à mon avis, peut-être un levier, justement, pour faire retourner les pays qui avaient officiellement quitté la CDAO, ces trois pays donc de l'AS. Je pense que le Sénégal a un rôle à jouer là-dessus.
Donc on peut s'attendre à une rencontre, peut-être, entre le président Diomaye Faye et certains de ses voisins sahéliens?
Je pense que ce n'est pas à exclure, même si c'est des régimes que les autres considèrent comme des régime non démocratique. Je pense que vu la posture et la dynamique engagée par le président Diomaye Faye sur les questions internationales, je pense qu'il n'est pas à exclure que le président Diomaye Faye se rende au Burkina ou au Mali, ou inversement, et que des discussions soient engagées. Je pense que c'est quelque chose qui est, à mon avis, très fort probable.
Mamadou Lamine Sarr, merci.
Mamadou Lamine Sarr, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Hamidou Kane de Dakar. Il répondait en ligne avec Christophe Boisbouvier. L'actualité des matières premières dans RFI Matin, nous sommes avec Marie Pirolfan. D'ici à 2 ans, la production de gaz naturel liquéfié pourrait inonder le marché. C'est un rapport de l'Institut pour l'économie et de l'énergie et l'analyse financière qui le dit. Cette explosion de l'offre de GNL devrait s'accompagner d'une augmentation moins forte des besoins. Une combinaison qui, sur le papier, devrait faire baisser les prix.
L'addition des capacités de production actuelles à celles qui sont en construction ou dont le financement est approuvé annonce une vague massive de GNL sur le marché. En chiffres, cela se traduirait par une augmentation de la capacité mondiale d'approvisionnement de 40% dans les 5 prochaines années, à en croire l'Institut pour l'économie de l'énergie et l'analyse financière, auteur d'un rapport sur le sujet. Plus de la moitié des nouveaux projets se situent au Qatar et aux États-Unis, qui illustrent parfaitement cet engouement pour le gaz naturel liquéfié. Le pays n'en produisait pas avant 2016, mais a réussi à devenir l'année dernière le premier exportateur mondial. En Amérique, comme ailleurs, les projets ont été dopés par 2 années de prix élevés. Des prix qui, en contrepartie, ont affecté la croissance de la demande, aujourd'hui qualifiée de médiocre par les auteurs du rapport. Comme si les grands importateurs avaient été refroidis par les prix et avaient autant que possible misé sur d'autres sources d'énergie. Chez les acheteurs qui comptent, que sont en particulier le Japon, la Corée du Sud et l'Europe, les achats de GNL ont globalement stagné l'année dernière, contrairement à ce qui était prévu, avec des baisses notables dans certains pays qui devraient se poursuivre dans les années qui viennent. Sur les marchés asiatiques dits émergents, la croissance fondamentale de la demande est-elle confrontée à une multitude de défis budgétaires, mais aussi retard dans la construction d'infrastructures de GNL. Pour des raisons économiques et stratégiques propres à chaque État, les niveaux d'importation à venir sont donc très incertains au Vietnam, aux Philippines, au Pakistan, mais aussi en Chine. Ce contexte de déséquilibre entre l'offre et la demande devrait atténuer les prix et les rendre plus attractifs, mais selon les auteurs du rapport, pas suffisamment pour les économies les plus en difficulté d'Asie.
Les matières premières avec Marie Pirolfan. Puisqu'on parle économie, un mot de la croissance française. La première estimation pour le premier trimestre de l'année 2024, fournie par l'INSEE il y a quelques minutes, plus 0,2%. La croissance progresse, c'est un nouveau signe qui traduit la solidité de notre économie, se félicite le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. On y reviendra.
RFI Matin.
Grand reportage à retrouver à 21h40 heure de Paris aujourd'hui. Nous prenons la direction de la Tunisie. On se souvient qu'il y a un an, le président tunisien Kais Saied s'en était pris violemment aux migrants. Il laissait clairement entendre que la venue de migrants subsahariens relevait d'un complot pour affaiblir l'identité arabo-islamique de la Tunisie. Avait suivi des semaines de violence et durant l'été 2023, des migrants étaient déplacés par centaines vers des zones désertiques, vers les frontières avec l'Algérie et la Libye, sans eau, sans nourriture et en plein été. Aujourd'hui, les migrants sont moins nombreux dans les grandes villes de Tunisie, mais pour autant, les tensions ont-elles disparu ? Grand reportage d'Amira Souilem.
Éloignés des grandes villes et des côtes, les exilés se rabattent vers l'arrière du pays désormais. À la précarité matérielle vient s'ajouter l'intranquillité mentale. Un jeune homme fait signe de le suivre.
Venez, je vais vous montrer. Ici, c'est un peu de l'appartement de Black.
Il est guinéen, il a 22 ans et se fait appeler Smaïl.
Nous ne nous sentons pas en sécurité ici parce que la population, il peut venir à n'importe comment, à n'importe moment. Donc on est là, on a peur, on vit avec la phobie. Mais à chaque jour, même aujourd'hui, j'ai été à la boutique, ils m'ont poursuivi, vous voyez ma chaussure, ça a été coupé aujourd'hui. Ils m'ont poursuivi à la boutique. Donc nous sommes tombés, on a pris les cours des gens, les chiens aussi nous ont sachés. Ça c'était aujourd'hui même. Aujourd'hui le matin quand je suis parti chercher le déjeuner. C'était la garde nationale. Non, ils sont venus, on était dans la boutique, on était à l'intérieur de la boutique. Et ils sont venus dans leur voiture, ils ont filé, venu garer directement devant la boutique. Ils sont descendus, c'est comme si on est en guerre ou quelque chose. Bon, il y a une personne qui nous a signalé, police, tout le monde a essayé de fouiller. Ils ont même attrapé certaines personnes. Bon, tout le monde quand même a essayé de fuir. Tu fuis comme tu peux, parce que tu ne peux pas regarder ton prochain comment il va. Toi, c'est pour toi qui va t'inquiéter.
Le lendemain de notre tournage, en se rendant dans une épicerie près de l'Oliveraie, ce jeune homme a été arrêté et refoulé en Libye. Selon nos informations, il serait aux mains de milices qui demandent une rançon. Quel destin pour ces migrants ? Impossible de rentrer au pays, indésirable en Tunisie, interdit d'entrer en Europe, des milliers d'hommes, femmes et enfants vivent cette impasse au quotidien.
Le supplice des migrants subsahariens en Tunisie, c'est le grand reportage du jour avec Amira Swilem, à écouter à 19h40, temps universel. RFI Matin, pour la suite, vous êtes avec Nathalie Amar. Bonjour Nathalie.
Bonjour Arnaud, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent.
Les deux prochaines heures, c'est avec vous.
Mais
et
oui.
Votre invité dans 20 minutes.
Notre invité, le dessinateur Johann Sfar, il publie « Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs ». Parole d'un artiste et militant de la paix après le 7 octobre, alors qu'une trêve est toujours en discussion. On en parlera. D'ailleurs, une trêve à Gaza, on en parlera dès le prochain journal. Bonne journée Arnaud, à demain.
À demain.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Gabon, le dialogue national a-t-il été à la hauteur de vos attentes ? Après un mois de discussion, quelles recommandations vous semblent pertinentes pour réformer en profondeur le pays ? Certaines propositions peuvent-elles poser problème ? Appelez-nous, exprimez-vous.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
Le festival aux quatre coins du mot célèbre le mot sous toutes ses formes du 8 au 12 mai dans le site historique de la Charité-sur-Loire. Au programme, spectacle, écoute, rencontre, lecture, jeu, exposition, concert et atelier sur le thème de Rebelles et décibels, les mots résonnent en bord de Loire. Plus d'informations sur citedumot.com en partenariat avec RFI.